Enracinez et édifiez en lui, par Marc Tapernou, édition 1964. Troisième enregistrement, quatrième paragraphe, le combat chrétien. Point 1. Satan. Celui qui pratique le péché est du diable. Il a moralement la même nature que le diable. Car le diable pêche dès le commencement. C'est son caractère originel comme diable. Or Christ a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Comment donc celui qui partage le caractère de cet ennemi des âmes peut-il être avec Christ? Celui qui est né de Dieu ne pratique point le péché. La raison en est évidente. Il est rendu participant de la nature de Dieu, il tire sa vie de lui. Ce principe de la vie divine est en lui. La semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Comment se pourrait-il que la nature divine péchât? Le croyant, entre les bras de son Sauveur, est à l'abri de toute la puissance de Satan. Et Satan le sait très bien. Aussi, tous ses efforts tendent-ils à nous séparer de Christ, ne fût-ce qu'un instant. Lorsque, par ruse, il nous aura attirés hors de la forteresse de l'amour de Dieu, il nous aura totalement à sa merci. Malheur à qui cède, par lâcheté, par faiblesse, ou peut-être par amour du péché. Nous pensons parfois qu'une bonne bataille livrée à Satan nous suffira, mais il n'en est rien. Nous avons la sécurité en Christ et la certitude de la victoire, mais aucune promesse que le combat prendra fin. Les tentations de Satan n'ont pas pour premier but de nous faire commettre un péché particulier, mais simplement de nous amener à agir dans notre propre énergie. Et dès que nous sortons de notre refuge pour agir sur cette base, il a remporté la victoire sur nous. Tant que nous ne bougeons pas, tant que nous ne sortons pas de l'abri de Christ pour revenir dans le domaine de la chair, il ne peut pas nous atteindre. Jésus n'a pas dit à Satan: « Je suis Dieu, va-t'en ». Cela n'aurait été pour nous ni un secours, ni un exemple. Il a cité la parole donnée à l'homme, en homme obéissant, et l'homme fort a été vaincu. Nous avons à nous rappeler que Christ a lié Satan, en sorte que maintenant il peut piller ses biens. Il permet peut-être que Satan jette quelques-uns en prison pour qu'ils soient éprouvés. Mais Satan n'y gagne rien. Quand il se trouve devant une personne qui marche avec Christ, il n'a absolument aucune puissance contre elle. Que les eaux soient agitées ou calmes, il sera toujours vrai que nous y enfoncerons si Christ n'y est pas avec nous, et que nous marcherons sur elle s'il est avec nous. Au lieu de mettre Dieu entre nos soucis et nous, ce sont nos soucis que nous plaçons entre Dieu et nous, de telle sorte qu'au lieu d'être gardés dans sa paix, nous demeurons dans l'inquiétude. L'ennemi ne réussit que trop à nous occuper de tous nos soucis, afin de nous empêcher de jouir de ce que nous avons en Christ. Nulle part la lutte avec l'ennemi n'est sentie plus intensément que dans la prière. C'est là que Satan désire intervenir. Point 2. La chair. Tout ce que je n'ai pas reçu par la nouvelle naissance, mais que j'ai hérité par ma naissance naturelle, est chair, et ne peut apporter de gloire qu'à l'homme, et jamais à Dieu. Cette déclaration peut nous paraître amère, mais elle est vraie. L'origine d'une chose détermine sa destinée, et ce qui est de la chair à l'origine ne pourra jamais devenir spirituel par aucun perfectionnement. Ce qui est né de la chair est chair, et ne sera jamais autre chose. Tout ce que nous pouvons accomplir par nous-mêmes n'est rien aux yeux de Dieu, et il nous faut accepter l'appréciation de Dieu et reconnaître que ce n'est rien.
La chair ne profite de rien. Jean 6, verset 63.
Seul ce qui vient d'en haut peut demeurer. Dieu nous demande de nous considérer comme morts, non pour que nous mourions en le faisant, mais parce que nous sommes morts. Il ne nous a jamais demandé de reconnaître une chose qui ne serait pas un fait. Tandis que Romains 6 parle du corps du péché, verset 6, Romains 7 parle de ce corps de mort, verset 24. Romains 6, verset 6.
Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché.
Romains 7, verset 24.
Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort?
Dans le chapitre 6, c'est tout le problème du péché qui est devant nous. Dans le chapitre 7, c'est le problème de la mort. Quelle est la différence entre le corps du péché et le corps de mort? Par rapport au péché, savoir tout ce qui déplaît à Dieu, j'ai un corps de péché, c'est-à-dire un corps engagé activement dans le péché. Mais par rapport à la loi de Dieu, savoir tout ce qui exprime la volonté de Dieu, j'ai un corps de mort. Toute mon activité à l'égard du péché fait de mon corps un corps de péché. Mon impuissance à l'égard de la volonté de Dieu fait de mon corps un corps de mort. Par ma propre nature, j'accepte tout ce qui est mal, tout ce qui est du monde et de Satan, et je refuse tout ce qui appartient à la sainteté, au ciel et à Dieu. Avons-nous découvert que nous sommes encombrés du fardeau d'un corps sans vie à l'égard de la volonté de Dieu? La mort signifie faiblesse absolue. Elle signifie qu'on est faible au point de ne pouvoir l'être davantage. Le fait que j'ai un corps de mort à l'égard de la volonté de Dieu signifie que je suis si faible que je suis plongé dans la détresse la plus terrible.
Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort?
Romains 7, verset 24. Le moi ne nous laisse pas de repos. Orgueilleux, il n'aime pas à être mis de côté. Susceptible, il ne peut accepter une parole dure ou injuste, il ressent la moindre offense. Il est facilement découragé, prompt à s'irriter, difficile à contenter, présomptueux et à la fois craintif. Ce moi égoïste, si fatigant par ses exigences, ses susceptibilités, ses œuvres propres, a été cloué à la croix. Le « moi » doit être, tôt ou tard, connu et jugé. Si l'on n'apprend pas à le connaître dans la communion de Dieu, il faut qu'on l'apprenne par l'expérience amère de quelque chute.
En sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Dieu veut avoir des vases vides. La chair est en nous comme une nature ennemie et condamnée, et n'est que cela. Dieu n'a pas pardonné, mais il a condamné le péché dans la chair, et cela dans la personne de Christ, sacrifice pour le péché. Uni avec lui dans le ciel, le chrétien doit marcher comme lui a marché sur la terre. Un royaume ne peut avoir deux rois. Si le Seigneur règne sur notre cœur, le vieil homme doit abdiquer. Par la crucifixion du vieil homme, le pécheur est délivré de la puissance et de l'empire du péché. Par la grâce, cette libération est un fait accompli. Par la foi, elle devient une expérience. Par la grâce, le vieil homme a été mis au tombeau. Par la foi, il y restera. Quand le chrétien se regarde comme mort au péché, Le Saint-Esprit fait de cette mort une réalité. La chair ne supporte pas d'être condamnée au néant, non par des efforts pour s'annuler elle-même, ce qui la rétablirait dans toute son importance, mais par une œuvre qui la laisse dans sa vraie nullité, et qui a prononcé sur elle le jugement absolu de la mort, de sorte que, convaincue de n'être rien que péché, elle n'a plus qu'à se taire. Elle n'a plus qu'à se taire. Sa place est d'être morte, et non pas de devenir meilleure. Nous avons le droit et le pouvoir de tenir la chair pour morte, parce que Christ est mort et que nous vivons sa vie de résurrection. Il est devenu lui-même notre vie. Notre propre volonté et le fait que nous faisons du moi notre centre sont la source de toute notre misère, car les circonstances extérieures peuvent nous éprouver et causer de la douleur, mais non de la misère morale. Celle-ci découle de la propre volonté agitée et mécontente. Lorsque nous prêtons l'oreille aux sollicitations de la chair, ou si, même, nous entrons en lutte avec elle, nous reconnaissons comme vivant quelque chose que nous devrions tenir pour mort. Ne faire aucun cas des prétentions de la chair, voilà le vrai combat. Il mène toujours à la victoire. Point 3. Le monde. Celui qui est né de Dieu est victorieux du monde. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Il a une nature et un principe qui surmontent les difficultés que le monde oppose à sa marche. Sa nature est la nature divine, car il est né de Dieu. Son principe est celui de la foi. La foi est insensible aux attraits que ce monde offre à la chair, et cela parce que cette nature a, complètement en dehors de ce monde, un esprit indépendant, un objet à elle qui la gouverne. La foi dirige ses pas. Or la foi ne voit pas le monde, ni ce qui est présent. Le monde a perdu son empire sur elle. Les affections et la confiance de cette nature sont fixées sur Jésus qui a été crucifié. Ainsi, le croyant, détaché du monde, a le courage de l'obéissance et fait la volonté de Dieu. Mettons de côté tout ce qui est une perte pour nous. Il y a toujours un ver rongeur dans les choses de la terre, auxquels nos cœurs s'attachent encore si souvent avec ardeur. Il n'y a pas, pour la foi, d'autre trésor que le Seigneur Jésus dans le ciel. Si nous le négligeons, c'est qu'il n'a pas pris, dans nos cœurs, la place à laquelle il a droit. Demandons instamment à Dieu qu'il nous donne de pouvoir répondre à notre appel céleste. Quand le cœur est ainsi engagé avec le Seigneur en haut, de telle sorte que nos affections trouvent en lui leur objet, il se produit tout naturellement un effet correspondant dans la marche. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Luc 12, verset 35. Il faut que nos reins soient sains afin que l'homme intérieur, étant toujours sous le contrôle et l'autorité de la parole, nous soyons gardés de la souillure de ce monde. Les choses célestes et les choses terrestres ne peuvent aller ensemble. Regarder en haut et en bas, avoir nos motifs dans le ciel et sur la terre en même temps est impossible. Être tenté par les choses terrestres, avoir à les combattre, oui bien, mais ce n'est pas les avoir pour objet. La raison toutefois de cette abnégation des choses d'ici-bas se trouve dans notre position. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Telle est la précieuse et consolante vérité à l'égard du chrétien, en vertu de ce que Christ est mort pour nous. Nous avons reçu la vie de Christ, et tout ce que Christ a fait pour nous dans cette vie nous appartient. Christ et le péché ne peuvent cohabiter, et nous ne pouvons avoir sa présence avec l'amour du monde. Un chrétien céleste tient pour une honte toute marque du monde sur lui. Un cœur distrait est un fléau pour le chrétien. Quand le cœur est rempli de Christ, il n'a point de place ni de désir pour les vanités du monde. Si Christ habite dans notre cœur par la foi, nous ne nous poserons pas la question si fréquente « Quel mal y a-t-il en ceci ou en cela ?» Nous nous demanderons plutôt « Est-ce que je fais ceci pour Christ ? Peut-il m'approuver en cela ?» Si nous sommes en communion avec lui, nous découvrirons facilement ce qui n'est pas selon lui. Ne laissons pas le monde intervenir et détourner nos pensées. Ce qui nous empêche de nous réjouir, ce ne sont pas les difficultés du chemin, mais un cœur partagé. Quand un chrétien marche avec le monde, sa conscience lui fait des reproches, et s'il rencontre des chrétiens spirituels, il est malheureux en leur compagnie. De fait, il n'est heureux nulle part. Il est une marche aisée, un chemin facile de mondanité, et rien n'est plus triste que de voir un chrétien vivre tranquillement et confortablement, allant de l'avant, jour après jour, sans aucune dépendance du Seigneur. Tout signe du monde est un opprobre pour celui qui est céleste. Le principe de la mondanité est déraciné chez celui qui est mort et ressuscité avec Christ et qui vit d'une vie céleste. La vie d'un ressuscité n'est pas de ce monde, elle n'a pas de lien avec lui. Si le croyant est sur une croix et le monde sur une autre, la distance morale qui les sépare est considérable. Si la distance est considérable en principe, elle devrait l'être en pratique aussi. Le croyant se montre infidèle à Christ en proportion de la communion qu'il entretient avec le monde. Nous sommes morts au monde et vivants avec Christ. Nous sommes à la fois participants de son rejet sur la terre et de son acceptation dans le ciel. Et la joie de cette acceptation nous fait compter pour rien l'épreuve qui se rattache au rejet. Qu'est-ce que le monde ? La parole de Dieu le définit avec une parfaite précision. Ce qui n'est pas du Père. 1 Jean 2, versets 15 et 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Ainsi, plus ma communion avec le Père sera profonde, plus aussi sera exercé mon discernement à l'égard de ce qui est du monde. Plus vous vous réjouirez dans l'amour du Père, plus aussi vous rejetterez le monde. Mais qui est-ce qui révèle le Père ? C'est le Fils. Et il le fait par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, plus je sais, dans la puissance d'un esprit non contristé, m'abreuver dans la révélation que le Fils fait du Père, plus mon discernement de ce qui est du monde est juste. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point la volonté de la chair. Galates 5, verset 16. Marchez avec Dieu et vous ne marcherez pas avec le monde. Quel bonheur ce serait si tous ceux qui font profession de sortir d'Égypte s'en éloignaient véritablement et savaient bien reconnaître la croix et la tombe de Christ comme formant la limite entre eux et le monde. Il est déplorable de voir des chrétiens rechercher les choses du monde. Cela prouve clairement qu'ils sont dégoûtés de la manne céleste et qu'ils l'estiment être un pain misérable. Ils servent ce qu'ils devraient mortifier. L'activité de la vie nouvelle est toujours liée au dépouillement du vieil homme avec ses actions. Colossiens 3, verset 9.
ne mentaient point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions.
Et plus ce dépouillement aura lieu, plus on désirera se nourrir du pain qui soutient le cœur de l'homme. Psaume 104, verset 15.
Et avec le pain, il soutient le cœur de l'homme.
À quoi servons-nous si, dans notre marche, nous nous identifions à un monde qui a rejeté Christ? Quand un chrétien a honte de confesser Christ quelque part, la première chose qu'il doit examiner est s'il ne se trouve pas en un lieu et dans une compagnie où le chrétien devrait avoir honte de se trouver. Paul considérait le monde comme une chose qui devait être clouée à la croix, et le monde, en crucifiant Christ, avait crucifié tous ceux qui lui appartenaient. Notre association avec Christ nous ouvre le ciel et nous rejette hors de ce monde. Or, si nous faisons profession d'être du ciel sans que le monde nous rejette, cela prouve qu'il y a quelque chose de faux dans la position que nous avons prise. Il vaut mieux être attiré par les joies du ciel qu'être poussé en haut par les chagrins de la terre. Le croyant ne devrait pas attendre que le monde l'abandonne pour abandonner le monde. Il devrait laisser les choses de la terre par la puissance de la communion des choses qui sont en haut. Quand, par la foi, on a saisi Christ, il n'est pas difficile de laisser le monde. La difficulté alors serait plutôt de rester attaché au monde. Ce n'est que par la foi que nous pouvons surmonter le monde. L'incrédulité nous place sous la puissance des choses présentes, ou, en d'autres termes, donne au monde la victoire sur nous. Tandis que l'âme qui, par l'enseignement du Saint-Esprit, a appris à connaître que Dieu suffit parfaitement, est entièrement indépendante des choses d'ici-bas.
C'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi.
Les pires et les plus dangereux instruments de Satan sont des croyants possédant la vérité et en jouissant peut-être, mais craignant l'opprobre et l'inimitié du monde. Reculer devant la croix, c'est renier le christianisme. La même œuvre qui a pour toujours enlevé nos péchés nous a retirés, littéralement arrachés avec force, hors de ce présent siècle mauvais. Les deux choses vont ensemble. Christ m'a non seulement délivré des conséquences de mes péchés, mais aussi de la puissance actuelle du péché, ou des exigences et des influences de ce système que l'Écriture appelle le monde. Ceux qui professent d'être chrétiens, tout en reniant leur appel et leur caractère céleste, ou en agissant comme s'ils étaient citoyens de ce monde, font un tort considérable à la cause de Dieu et au témoignage de Christ. Ils deviennent des instruments dont Satan s'est tiré parti. Un chrétien indécis, partagé, est plus inconséquent qu'un mondain sincère ou qu'un véritable incrédule. Point 4. La loi. La loi n'a rien amené à la perfection. Elle a été, du reste, mise de côté à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Hébreux 7, versets 18 et 19.
Car il y a abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu.
Elle a maudit les coupables et n'a pu en sauver aucun. Notre Sauveur a subi cette malédiction pour ceux qui croient en lui, afin que
la bénédiction nous parvint dans le Christ Jésus.
Galates 3, verset 13. La loi est retournée au trône de Dieu avec toute la gloire qu'elle a reçue par la sanction que Dieu a fait reposer sur elle par le jugement de notre divin substitut, afin qu'au lieu de la malédiction que nous avions encourue, nous recevions la vie et le Saint-Esprit, puissance de cette vie. Lorsque Christ a subi le jugement, nous avons été atteints nous-mêmes par ce jugement et devons le réaliser heure par heure, en portant la croix chaque jour. Ainsi la loi qui s'adressait à l'homme pécheur, l'ayant condamné et maudit, n'a plus rien à nous dire, puisque nous sommes morts à la loi, pour être à un autre, au Christ Jésus ressuscité. Notre Sauveur ayant pris notre place sous le jugement, la loi ne s'adresse plus à nous. Nous sommes délivrés de son autorité et de sa malédiction, et vivons d'une vie nouvelle de résurrection en Christ ressuscité, dans laquelle nous n'avons plus rien à faire avec la loi. Ce n'est cependant pas que nous soyons sans loi quant à Dieu, mais nous sommes justement soumis à Christ. 1 Corinthiens 9, verset 21.
Non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ, afin de gagner ceux qui étaient sans loi.
Ainsi, les justes exigences de la loi se trouvent réalisées en ceux qui, sans être placés sous l'autorité et sous la malédiction de la loi, marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 13.
Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
La grâce dans laquelle nous sommes ôte à la chair tout pouvoir sur nous. Si la loi est la puissance du péché, 1 Corinthiens 15, verset 56, la grâce en est l'impuissance. Or, l'aiguillon de la mort, 1 Corinthiens 15, verset 56,
or l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi.
La loi donne au péché de la puissance sur nous. La grâce nous donne de la puissance sur le péché. Dieu a certaines exigences de sainteté et de justice que je suis appelé à remplir. C'est la loi. Or, si la loi signifie que Dieu me demande d'accomplir certaines choses, l'affranchissement de la loi signifie qu'il ne me le demande plus, pour mériter sa faveur, parce que, dans sa grâce, il y a pourvu lui-même. La loi signifie que Dieu me demande de faire quelque chose pour lui. La délivrance de la loi signifie qu'il m'exempte de le faire, parce que, dans sa grâce, il le fait lui-même. Les exigences de Dieu n'ont pas changé, mais ce n'est pas à nous à y répondre. Que Dieu soit loué. Il est sur le trône, celui qui donne la loi, et il est dans mon cœur, celui qui l'observe. C'est lui qui a donné les commandements, et lui-même qui les accomplit. Tant que nous nous efforçons de faire quelque chose, Dieu ne peut pas agir pour nous. Quand nous abandonnons la partie, Dieu la prend en main. Il attend que nous soyons à la fin de nos ressources, et que nous ne puissions plus rien par nous-mêmes. Dieu a condamné tout ce qui est de la vieille création, et, en la personne de notre Seigneur Jésus, l'a cloué sur la croix. La chair ne sert de rien. Si nous essayons de faire quelque chose dans la chair, nous rejetons virtuellement la croix de Christ. Dieu a déclaré que nous ne méritions que la mort. Lorsque nous le croyons réellement, nous confirmons le verdict de Dieu en abandonnant tout effort charnel pour lui plaire. La vie chrétienne ne consiste point dans l'observation de certaines ordonnances, commandements ou traditions. Elle est une divine réalité. C'est Christ dans le cœur, et Christ reproduit dans la vie de chaque jour par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'homme nouveau, formé d'après le modèle de Christ lui-même et se révélant dans les moindres détails de notre conduite et de notre marche au milieu du monde, de nos familles, de nos transactions avec nos semblables, dans nos manières, notre humeur, en un mot, dans tout ce qui est nous-mêmes. Ce n'est point une affaire de profession ou de dogme, d'opinion ou de sentiment, mais une réalité vivante et incontestable. C'est la dépendance de Dieu établie dans le cœur et tendant sa domination bénie sur tout l'être moral et répandant sa douce influence sur toute la sphère où nous sommes appelés à vivre. C'est le chrétien marchant sur les traces bénies de celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, trouvant son plaisir à donner et à servir, toujours prêt à soulager et à sympathiser avec les cœurs affligés ou découragés. Je ne dis pas que l'autorité de la loi se soit affaiblie ou ait cessé. Ce que je dis, c'est que j'y suis mort. La loi a de l'autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, et ne peut en avoir plus longtemps. Or, je ne suis plus vivant dans la chair. Délivré, tout à fait hors d'elle, par la rédemption, je suis mort et ressuscité. Je suis en Christ. Point 5. Lutte et victoire. Un chrétien charnel et endormi n'aura pas à soutenir une grande lutte spirituelle. Il est déjà parmi les vaincus. Et plus un croyant sera rempli de l'Esprit, plus il voudra avancer dans la sanctification, et plus il aura à subir les assauts de l'ennemi. Dieu ne se moque pas de nous. Il ne nous revêtirait pas de son armure si elle n'était pas capable de résister aux coups de l'adversaire. Il ne nous lancerait pas non plus dans la bataille si la victoire n'était pas possible. Il n'y a pas une position dans laquelle un saint se trouve où il ne puisse chercher la présence de Dieu pour être secouru. Le chemin le plus difficile, celui qui nous mène au plus rude combat, n'est que le chemin de la victoire et du repos, nous faisant avancer dans la connaissance de Dieu. C'est le chemin dans lequel on est en communion avec Dieu, lui qui est la source de toute joie. Ce sont les arts et l'avant-goût du bonheur éternel et infini. L'Esprit et la parole sont le tout de la vie spirituelle. Munie de cette force, la foi va en avant, fortifiée par la parole encourageante de notre Dieu. Dieu a un chemin dans le monde où Satan ne peut nous atteindre. C'est le chemin où Jésus a marché. Satan est le prince de ce monde, mais il y a un chemin divin pour le traverser, et il n'y en a pas d'autre. C'est là qu'est la puissance de Dieu. La parole en est la révélation. L'habitude constante de juger la chair dans les petites choses est le secret pour être gardé de chute. Les moyens par lesquels Dieu nous délivre du péché ne consistent pas à nous rendre de plus en plus forts, mais à nous rendre de plus en plus faibles. C'est sûrement une manière plutôt singulière de nous amener à la victoire, direz-vous. Mais c'est le chemin de Dieu. Dieu nous affranchit du pouvoir du péché, non pas en fortifiant notre vieil homme, mais en le crucifiant, non pas en l'aidant à arriver à quelque chose, mais en le mettant hors d'action. Souvent, le chrétien cherche à oublier sa faiblesse. Il veut la vaincre, en être délivré. Dieu veut, au contraire, que nous en soyons conscients, que nous la sentions profondément. Il veut que nous y demeurions, et même que nous nous réjouissions en elle. Le chrétien gémit de sa faiblesse, mais Christ enseigne à ses disciples à dire « Je me glorifierai très volontiers plutôt dans mes infirmités ». Le chrétien la considère comme le plus grand obstacle qui l'empêche de vivre pour son Dieu. Et Dieu nous dit quel est le secret de la puissance et du succès. C'est notre faiblesse, franchement reconnue, qui nous donne droit et accès à la force de celui qui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité ». Le Seigneur ne supprime pas le sentiment de notre faiblesse. Au contraire, chose merveilleuse, en laissant et même en développant en nous le sentiment d'une totale impuissance, il nous donne, en même temps, conscience d'une grande force en lui. Nous avons ce trésor dans des vases de terre,
afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous.
La faiblesse et la force marchent de front. Si le sentiment de l'une augmente, le sentiment de l'autre augmente aussi, jusqu'à ce qu'enfin nous puissions dire avec l'apôtre Paul
« Quand je suis faible, alors je suis fort. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. »
Acceptons, par la foi, ce plan admirable de Dieu. En nous, rien que faiblesse. En Christ, la toute-puissance. Ne regardons plus à nous-mêmes, mais seulement à Christ, et nous pourrons dire alors
« Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. »
Point 6. Chutes et restaurations. Lorsque la communion est interrompue, lorsque nous avons péché, non pas lorsque nous nous sommes repentis, car c'est son intercession qui nous mène à la repentance, Christ intercède pour nous. La justice est toujours là, notre justice. Jésus-Christ, le juste. Ainsi, la grâce agit en vertu de cette justice et de ce sang qui est devant Dieu. Elle agit en réponse à l'intercession de Christ qui ne nous oublie jamais pour nous ramener à la communion par la repentance. Lorsque nous avons perdu la communion avec Dieu, notre cœur naturel dit « Je dois en corriger la cause avant de pouvoir venir à Christ ». Mais il est plein de grâce et, si nous le savons, notre devoir est de revenir à lui immédiatement tel que nous sommes, et ensuite de nous humilier profondément devant lui. Ce n'est qu'en lui et par lui que nous trouverons ce qui restaure nos âmes. Quand c'est Dieu qui fixe notre position, nous pouvons être sûrs qu'elle est choisie avec sagesse et qu'elle est salutaire. Et même quand nous l'avons follement et volontairement choisie nous-mêmes, Dieu, dans sa miséricorde, domine notre folie et fait que la puissance des circonstances dans lesquelles nous sommes placés travaille à notre bien spirituel. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. La confession est donc ce que Dieu demande. Un chrétien qui aurait péché en pensée, en parole ou en action pourrait prier pendant des jours et des mois pour demander le pardon et cependant ne pas avoir l'assurance, fondée sur 1 Jean 1, verset 9, qu'il est pardonné. 1 Jean 1, verset 9.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité.
Tandis que, dès qu'il confesse sincèrement son péché devant Dieu, ce n'est plus qu'une affaire de foi de savoir qu'il est parfaitement pardonné et parfaitement purifié. Il est de toute importance que notre vie intérieure soit maintenue à la hauteur de notre activité extérieure, sinon nous sommes près de quelque chute spirituelle. Une fausse humilité, fruit de l'incrédulité, porte celui qui s'est égaré ou qui est resté en arrière à prendre une position inférieure à celle qu'il tient de Dieu, parce qu'il ne connaît pas le principe sur lequel Dieu restaure ceux qui sont tombés, ni dans quelle mesure il les restaure. Le fils prodigue demande à être fait serviteur, ignorant que, quant à lui, il n'a pas plus droit à la place de serviteur qu'à celle de fils, et que, en outre, il serait indigne du caractère du père de le placer dans une telle position. Il ne lui reste donc qu'à accepter ce que le Père trouve bon de lui donner, savoir la position la plus élevée, celle de la communion avec lui-même. Il faut plus de peine pour revenir dans le chemin de la bénédiction que pour se tenir loin du mal. Il n'y a peut-être rien qui endurcisse autant le cœur que l'habitude de confesser le péché sans le sentir. Il n'y a aucune limite au pardon divin par le fait qu'il n'y en a aucune à l'étendue de l'expiation, aucune à la vertu et à l'efficace du sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui purifie de tout péché. Aucune a la valeur de l'intercession de notre grand souverain sacrificateur, qui peut sauver jusqu'au bout tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Point 7. La sanctification. La sanctification est fondée sur une œuvre parfaite de réconciliation avec Dieu déjà accomplie. Le chrétien est envisagé, dans les Écritures, comme parfaitement sanctifié. La sanctification s'effectue par l'opération de l'Esprit-Saint, qui, en nous communiquant la nouvelle nature, nous sépare entièrement du monde. Il est important de maintenir cette vérité et de nous tenir pour déjà sanctifiés. Autrement, la sanctification pratique n'est plus que l'amélioration de l'homme naturel. Elle devient tout à fait légale. Le chrétien rentre, après sa réconciliation, dans le doute et l'incertitude, parce que, quoique justifié, il n'est pas considéré comme étant prêt pour le ciel. Son acceptation dépend, pense-t-il, de ses progrès, de sorte que la justification ne lui procure pas la paix avec Dieu. Par de telles vues, l'œuvre de la rédemption est affaiblie, pour ne pas dire détruite, c'est-à-dire l'appréciation de cette œuvre par la foi dans nos cœurs. Pris comme pécheurs dans le monde, nous sommes mis à part, par le Saint-Esprit, pour jouir de toute l'efficace de l'œuvre de Christ selon les conseils du Père. C'est par la vérité, par la parole, que la sanctification s'accomplit en nous, soit au commencement, dans la communication de la vie, soit en détail, tout au long du chemin.
Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
Le Saint-Esprit attache le cœur à Dieu en le révélant aussi toujours davantage. Il dévoile en même temps la gloire de Christ et toutes les qualités divines qui se déploient en lui dans la nature humaine et forment ainsi notre nature en tant que nous sommes nés de Dieu. Il est de toute évidence que la communion avec Dieu est la position pratique de la plus haute sanctification. Si Dieu est tout pour nous, dans notre vie pratique, nous sommes tous saints. Le souhait sincère de votre âme est-il de croître dans la grâce et dans la sanctification pratique? Alors prenez garde de ne pas vous associer, ne fût-ce qu'une heure seulement, à des choses qui souilleraient vos mains, chargeraient votre conscience, contristeraient le Saint-Esprit et interromperaient votre communion avec Dieu. Soyez fermement décidés de tout votre cœur à vous en abstenir. Renoncez immédiatement à tout ce qui est impur, quoi qu'il vous en coûte. Quelle que soit la perte qui puisse en résulter pour vous, abandonnez-le. Aucun gain mondain, aucun avantage terrestre ne saurait compenser la perte d'une conscience pure, d'un cœur rempli de paix et la jouissance d'une communion sans entrave avec Dieu, notre Père, et avec son Fils, notre Seigneur. La sainteté de Dieu, quelle pensée! La séparation absolue de tout mal parce qu'il est le bien absolu. Cette pureté inaltérable qu'aucune souillure ne peut atteindre, cette lumière qu'aucune ténèbre ne peut obscurcir, voilà la sainteté, l'état moral auquel Dieu veut que nous participions. Et c'est pour nous dégager de tout ce qui pourrait être une entrave à la jouissance toujours plus grande de cette condition qu'il nous discipline. En Christ, nous avons devant Dieu une position de sainteté parfaite.
Saints et irréprochables devant lui en amour.
Éphésiens 1. Mais il veut que nous lui ressemblions pratiquement, que moralement notre état réponde à ce qu'il est. Plus un croyant aime Dieu, plus il craint de lui déplaire. Cette crainte, fruit de l'amour, est le vrai principe d'une sainte conduite. Elle incite le fidèle à fuir les tentations, à se retirer du mal, et cela parce qu'elle lui inspire l'horreur du péché. Nous n'avons jamais d'excuse pour un seul péché en acte ou en pensée, parce que la grâce de Christ nous suffit, et que Dieu est fidèle, qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Bien qu'elle ne soit pas le fondement de notre salut, la sainteté pratique est intimement unie à la jouissance du salut. Ceux qui appartiennent à l'assemblée de Dieu doivent se conduire comme des saints. Ils ont non seulement été délivrés de la culpa et des conséquences du péché, mais encore de la pratique, de la puissance et de l'amour du péché. Le fait même qu'Israël était délivré par le sang de l'agneau pascal lui imposait la responsabilité d'ôter du milieu de lui le levain. Une vraie connaissance de moi-même ne me viendra jamais par mes propres efforts, mais uniquement lorsque je laisserai à Dieu le soin de me sonder. Le jugement de moi-même est un des exercices les plus précieux et les plus salutaires de la vie chrétienne, et par conséquent, tout ce qui tend à l'amener doit être hautement estimé par tout chrétien sérieux. On devrait toujours pouvoir appliquer spirituellement aux chrétiens ce vers d'un poète qui a dit de l'albatros, et même quand il marche, on sent qu'il a des ailes. Plus nous contemplons le caractère divin et comprenons la puissance de nos relations avec Dieu, en Christ, par l'énergie du Saint-Esprit, plus nous serons, nécessairement, saints en pratique. Il ne peut y avoir de progrès dans l'état de sainteté où le croyant est introduit, mais il y a, et il doit y avoir progrès dans l'appréciation, dans l'expérience et la manifestation pratique de cette sainteté. La même croix qui nous a amenés au-dedans du voile nous a jetés hors du camp. Christ en fut aussi chassé, et là nous sommes avec lui. Mais il a été reçu dans le ciel, et nous y sommes avec lui. N'est-ce pas une grâce que d'être en dehors de tout ce qui a rejeté notre Seigneur et Maître? Assurément, et plus nous connaissons Jésus, plus nous connaissons ce présent siècle mauvais, plus aussi nous serons reconnaissants de trouver notre place en dehors de tout avec lui. Nous savons que la justification nous est acquise en vertu de l'œuvre de Christ et qu'elle ne demande aucune œuvre de notre part, mais nous pensons que la sanctification dépend de nos propres efforts. Nous savons que nous recevons le pardon en plaçant toute notre confiance dans le Seigneur. Et cependant, nous croyons obtenir la délivrance du péché en faisant nous-mêmes quelque chose. Nous craignons, si nous ne faisons rien, de n'arriver à rien. Après notre expérience du salut, notre vieille habitude de « faire quelque chose » réapparaît, et nous recommençons nos propres efforts personnels. Alors, la parole de Dieu vient nous dire « C'est accompli ». Jean 19, verset 30. Il a tout accompli sur la croix pour notre pardon, et il veut tout accomplir en nous pour notre délivrance. Dieu est toujours et en tout celui qui agit. C'est Dieu qui opère en vous. Philippiens 2, verset 13. Dieu veut tout accomplir, car toute la gloire doit être à lui. Si nous faisions une partie de l'œuvre, nous aurions une partie de la gloire. Il faut que toute la gloire revienne à Dieu. C'est pourquoi il accomplit toute l'œuvre du commencement à la fin. C'est la joie du cœur que de savoir que Christ lui-même nous rendra tout ce qu'il désire que nous soyons. Il est bon de se demander chaque jour « Quelle est la pensée qui m'occupe ? À quoi s'applique mon activité ? Quels sont mes calculs dans le secret de mon cœur ? Est-ce de l'esprit ou de la chair que j'attends un aliment pour mon âme? Mes désirs sont-ils d'en haut ou d'en bas? » Pour le chrétien, seul importe quant à sa marche ce qui est approuvé de Dieu, savoir ce qui est en accord avec sa nature essentielle et avec ses attributs immuables. Quiconque a jamais ressenti l'angoisse d'une conscience souillée ne peut contracter légèrement la souillure. Une conscience pure est un trésor par trop précieux pour qu'on s'en dessaisisse à la légère. Une conscience souillée est un fardeau par trop lourd pour qu'on s'en charge avec légèreté. Le croyant est manifesté dès maintenant. Il ne craint pas de l'être. Toutes les voies passées de Dieu envers lui se déploieront devant lui quand il sera dans la gloire. Mais il est manifesté à Dieu maintenant, sa conscience est exercée dans la lumière. Ainsi, la pensée du tribunal a une puissance actuelle sanctifiante. Comme il est donc évident que ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu, grâce à Dieu, le croyant n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. Il a été complètement sorti de son état dans la vieille création et introduit dans la nouvelle création où les péchés moraux ne sauraient subsister. Il a toujours, il est vrai, la vieille nature, mais il a l'heureux privilège de la compter comme une chose morte et de marcher dans la puissance constante de la nouvelle création où toutes choses sont de Dieu. C'est ici la liberté chrétienne, liberté de marcher en tous sens dans cette belle création où aucune trace de mal ne saurait se trouver, liberté sacrée de marcher en sainteté et en pureté devant Dieu et les hommes, liberté de fouler ces sentiers élevés de la sainteté personnelle sur lesquels les rayons de la face divine versent leur brillant éclat. Voilà ce qu'est la liberté chrétienne. C'est la liberté, non pas de commettre le péché, mais de goûter les douceurs célestes d'une vie de véritable sainteté et d'élévation morale. L'union avec Christ est le secret de la vie sans péché, car « il n'y a point de péché en lui » 1 Jean 3, verset 5. La foi doit vivre au jour le jour et ne se préoccuper que du moment présent. Si nous croyons que Jésus peut nous garder présentement de toute transgression, cela suffit. Allons de l'avant avec une confiance toujours renouvelée. Et qu'au lieu de nous décourager, les chutes et les péchés servent à nous faire rechercher, avec plus d'ardeur, la force et le salut en Christ. Nous pouvons faire des progrès dans cette voie-là, pourvu que nous nous remettions entièrement aux mains de Dieu pour être gardés par lui de péché, et que nous persévérions dans la foi. La sanctification est notre conformité intérieure d'affection et d'intelligence, et par conséquent de conduite extérieure avec Dieu et avec sa volonté. Point 8. Souffrance. Il vaut la peine de souffrir pour apprendre à comprendre et à consoler. Notre Dieu sait que les exercices douloureux de sa discipline paternelle ne sauraient être, alors que nous y passons, un sujet de joie. Si nous ne les ressentions pas, s'ils ne produisaient pas la tristesse, quel fruit pourrait-il porter? Le chrétien n'est pas un stoïque qui, orgueilleusement, brave la douleur. Il sent les coups, mais il connaît la main qui les inflige, et en les sentant, il regarde au résultat béni qui en sera la conséquence, le fruit paisible de la justice pratique, la réalisation dans la vie de cette sainteté dont nous sommes faits participants. Si le ciel était toujours serein, le sentier toujours uni, le croyant ne connaîtrait pas aussi bien le Dieu auquel il a affaire, car nous savons combien le cœur est enclin à prendre la paix extérieure pour la paix de Dieu. Quand nous nous reposons sur les circonstances, au lieu de nous reposer sur le Seigneur, il nous visite et, d'une manière ou d'une autre, il ébranle nos faux appuis. Il y a plus. Nous sommes souvent portés à croire que telle voie est droite parce qu'elle est exempte d'épreuves et vice-versa. C'est une grande erreur. Le sentier de l'obéissance est souvent tout ce qu'il y a de plus éprouvant pour la chair et le sang. Lorsque Paul fut appelé en Macédoine, la prison de Philippe fut presque la première chose qu'il rencontra. Le chemin qui conduit au royaume passe par la souffrance, l'affliction et la tribulation. Mais, grâce à Dieu, par la foi nous pouvons dire « Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Romains 8, verset 18. Et encore, nous savons que notre légère tribulation d'un moment opère pour nous en mesure surabondante un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Et enfin, nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Romains 5, versets 3 et 4. C'est un grand honneur et un privilège réel pour nous qu'il nous soit donné de pouvoir boire à la coupe de notre Maître et de pouvoir être baptisés de son baptême, de traverser, dans une bienheureuse communion avec lui, le chemin qui conduit directement à notre glorieux héritage. L'héritier et les cohéritiers parviennent à cet héritage par le sentier de la souffrance. Plus nous serons semblables au Seigneur, plus aussi nous souffrirons avec lui, et plus notre communion avec lui dans ses souffrances sera profonde, plus aussi le sera notre communion avec lui dans la gloire. Souvenons-nous que souffrir pour Christ n'est pas le joug d'un esclave, mais un privilège, non une loi de fer, mais une faveur de la grâce. À vous, il a été gratuitement donné, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Philippiens 1, verset 29. De plus, il est bien certain que le vrai secret des souffrances pour Christ, c'est que nos affections soient concentrées sur lui. Plus nous aimerons Jésus, plus aussi nous nous tiendrons près de lui, et plus nous nous tiendrons près de lui, plus nous l'imiterons fidèlement, et plus nous l'imiterons fidèlement, plus aussi nous aurons à souffrir pour lui. Quand nous sommes dans l'épreuve, n'oublions jamais que ce dont nous avons besoin, c'est non de voir changer nos circonstances, mais de remporter la victoire sur nous-mêmes. La réalité de notre amour pour Dieu, de notre confiance en lui, de notre dépendance à son égard, ne se manifeste jamais mieux que dans les tribulations, les privations au milieu des détresses. Courage donc ! Puisque le sens de toutes nos tribulations nous est révélé, accueillons-les avec joie, sachant qu'elles expriment tout l'amour de notre Père qui veut nous faire participer à sa sainteté. Accepter de suivre Christ ne signifie pas se mettre à l'abri des épreuves et de tous les ennuis auxquels on voudrait pouvoir se soustraire dans la vie. Comment nous attendre à une vie sans souffrance morale et physique dans un monde où Christ a sacrifié sa vie? Il a tellement souffert sur cette terre, il a marché dans le chemin du renoncement et de la croix, et ceux qui veulent être ses disciples ne doivent pas prévoir autre chose pour eux-mêmes, mais une promesse leur est donnée, simple et belle, et qui suffit.
Je suis avec vous tous les jours. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé.
Ils n'éviteront pas le feu ni les grandes eaux, mais avec Christ, ils ne seront ni submergés ni brûlés. Même si Dieu juge convenable qu'une affliction nous atteigne, si même il l'envoie, elle vient d'une main qui ne se trompe jamais et répond toujours à un cœur dont l'amour est parfait. Dieu n'a jamais promis que le chrétien échapperait aux tentations et aux épreuves de la vie, mais il a promis qu'avec la tentation, il préparerait le moyen d'en sortir, et qu'avec l'épreuve, il enverrait la force de la soutenir. Plus grande est notre faiblesse, plus manifeste est sa puissance. Celui-là seul qui a reçu les prémices de l'Esprit porte en lui-même le vrai soupir. Celui-là seul connaît le vrai écartèlement entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir, qui participe à la mort de Christ et, ici déjà, à sa résurrection. C'est dans le chrétien que le gémissement ineffable, l'attente, l'espérance, atteignent leur point culminant, parce qu'en lui, l'Esprit a déposé les prémices, c'est-à-dire le premier fruit de la nouvelle création. Car c'est en espérance que le chrétien est sauvé. La présence de son Dieu est une présence dans l'absence. Sa paix est une paix dans la lutte. Sa joie est une joie dans les larmes. C'est sous la croix qu'il connaît la résurrection. L'orgueil et une résistance stoïque à la souffrance ne nous conviennent pas. Ce n'est pas ainsi que nos âmes sont amenées à Dieu, mais au contraire, c'est ainsi qu'elles sont effectivement tenues à distance de lui. Lorsque la douleur est complète et sans issue, elle nous donne de l'intimité avec lui, qui veut et peut nous secourir, et c'est alors que nous trouvons réellement notre ressource en Dieu. Si Christ est entre nos cœurs et la souffrance, au lieu que celle-ci vienne se placer entre nos cœurs et Christ, nous trouverons que la souffrance est la meilleure place que nous puissions occuper sur la terre, parce que, dans ce cas, toutes nos souffrances nous amèneront plus près de Christ. Nous aimerions naviguer toujours à pleine voile avec un vent favorable, mais ce n'est pas ainsi que se forment les bons marins. Si nous avons à cœur de vivre dans la crainte de Dieu, de tenir ferme, d'obéir à la parole, nous serons tôt ou tard mis à l'épreuve. Dieu nous dispensera des circonstances au travers desquelles nous aurons à montrer si véritablement nous faisons passer avant toute autre considération les droits du Seigneur, ses intérêts, sa gloire, si nous sommes fidèles, non pas seulement en parole, mais aussi en action et en vérité. Cela entraîne parfois de très grandes souffrances qui brisent nos cœurs et ruinent nos corps, et nous sommes si faibles pour livrer de tels combats, pour manifester pratiquement que nous craignons le Seigneur et désirons lui être fidèles. Mais lui le sait. Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Quelle grâce ! Il est plus difficile de se réjouir dans le Seigneur étant dans la prospérité que dans la tribulation, car la tribulation nous rejette sur lui.